Bien, merci. Alors, je vais poursuivre en proposant du coup peut-être une illustration de ce risque de glissement incessant entre ce que Thierry vient d'évoquer, dissociation, évacuation, plutôt que conflictualisation. À travers mon travail et ma place d'intervenant, on analyse la pratique. Avant ça, je crois que je vous dois peut-être une petite définition par rapport à mon titre. En guise de préambule, alors, analyse de la pratique, travail d'artisan, de partisan ou d'artisan. Alors, artisan, ça désigne les insectes qui détruisent les étoffes, le bois, notamment. Et par extension, il existe un fromage aux artisans, qui est une appellation d'un fromage français qui est fabriqué dans la région du Puy-en-Velay. Et artisan ou artisou, ça vient de l'Auvergnat. C'est le nom qui est donné à certains acariens, en fait, qui vont se développer sur sa croûte. Ah, je suis trop bon. C'est comme les acariens, du coup. Ces acariens, en fait, vont participer de l'affinage du fromage. On verse sur le fromage ces acariens, et ça donne, du coup, une saveur, un goût très acide. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à découvrir ce fromage. Voilà, donc l'artisan, c'est à la fois un agent qui peut être destructeur, mais qui est aussi un agent de saveur, un agent de transformation. Alors, après ce rapide voyage gustatif, je vous invite dans un autre voyage, donc à la rencontre des équipes avec lesquelles j'essaye de travailler dans ce dispositif d'analyse de la pratique, et d'attraper les différents mouvements qui traversent les usagers, les professionnels, l'intervenant et les institutions. Donc je suis au rez-de-chaussée d'un immeuble vétuste, entouré d'une barre d'autres immeubles, tout aussi abîmés, oubliés, d'une banlieue chaude, comme on dit à la périphérie lyonnaise. La directrice de ce service me dit au téléphone pour convenir du premier rendez-vous pour la mise en place d'un groupe d'analyse de la pratique. Ne laissez rien dans votre voiture, ça craint ici. Service, c'est un CESAD, donc un service d'éducation spécialisé, de soins à domicile, qui est chargé de l'accompagnement de 70 enfants et de jeunes qui ont entre 4 et 20 ans, porteurs de troubles du comportement, de déficience intellectuelle. Ce service est au cœur de la cité. Les barreaux aux fenêtres sont manifestement de rigueur et il faut franchir plusieurs portes pour entrer dans les locaux. Lors d'une séance de travail, une des professionnelles dira « Depuis qu'on est là, c'est la 9e voiture qu'on nous brûle. On ne sait plus quoi faire. » Véhicules qui sont pourtant reconnaissables puisqu'ils sont siglés du nom de l'association dont dépend le CESAD. Alors, il me vient du coup des images de ces camions-pompiers qui sont caillassés lors de leurs interventions, pardon. Paradoxe que celui qui vient éteindre le feu est peut-être aussi celui qui attaque. À quel endroit, on peut se poser la question, le sentiment de citoyenneté, le sentiment d'appartenance a disparu? Comment celui qui aide serait celui aussi qui attaque dans ce qu'il représente d'une instance politique qui aurait oublié, laissé pour compte, la périphérie, l'autre côté du périphérique. Alors, lors des séances, je me surprends parfois à jeter un œil par la fenêtre à travers les barreaux pour vérifier que ma voiture n'est pas attaquée. Je fantasme que je pourrais laisser un mot sur ma voiture. Ne me brûlez pas, s'il vous plaît, je suis là pour vous aider. Mais est-ce que j'en suis bien certain? Est-ce que intervenir en analyse de la pratique est aidant? Est-ce que je ne suis pas celui qui va amener les professionnels à prendre conscience qu'ils n'aident pas les usagers? Non seulement qu'ils ne les aident pas, mais qu'au contraire, qu'ils participent de leur maintien dans une précarité, une mésinscription, dont Gaïa parlait tout à l'heure, un en dehors du collectif de la métropole. Alors je dois sans doute m'expliquer ici aussi, je ne dis pas que les professionnels n'aident pas les personnes qu'ils accompagnent. Au contraire, on sait qu'ils mettent une énergie, un investissement qui est assez souvent extraordinaire, qui frise parfois l'engagement proche du sacerdoce. Alors, c'est un vocable religieux que j'utilise, mais qui a le mérite de nous montrer comment le professionnel peut parfois s'enfermer dans une position de toute puissance, un rôle de sauveur, seul contre tous. Contre toutes ces institutions défaillantes, ces partenaires sociaux peu rigoureux, ces familles contrariantes, opposantes, et parfois même contre l'accompagné, celui-là même qu'il faudrait pourtant sauver. Il me semble qu'une des fonctions de l'analyse de la pratique, c'est de permettre aux professionnels de se dégager de ces enjeux d'omnipotence, de réaliser l'énergie des pensées pour refuser leurs propres limites et se confronter à la dimension dépressive et haineuse du lien à l'autre, de son authenticité, de son incomplétude. Ce que je tente d'illustrer aujourd'hui, c'est comment l'intervenant en analyse de la pratique peut lui aussi être happé du côté de cette toute-puissance. Il est sans doute un des mieux placés pour ne rien y comprendre, être un réceptacle du non-traité, du négatif qui se cristallise dans cette instance de régulation. Je ne crois pas que le travail d'analyse de la pratique consiste à échapper à cette omnipotence, à devenir suffisamment expert pour ne plus être concerné par ces enjeux. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer comment l'intervenant peut faire preuve de souplesse et naviguer entre différents mouvements contre-transférentiels face au groupe et aux individus qui le composent. À l'image du professionnel dans sa pratique, comment l'intervenant peut reconnaître et faire coexister, conflictualiser ces mouvements? Comment peut-il être dynamiquement et tout à la fois partisan, artisan et artisan? J'y viens. Parfois partisan, donc, au travers du sentiment de toute-puissance, tel le sauveur séducteur d'une équipe désemparée. Là où on viendrait rassurer une équipe, ni vous ni moi n'êtes de cette institution mauvaise qui dysfonctionne, ne vous inquiétez pas. Ensemble, nous allons rebâtir un monde meilleur, affranchi de ces monarques indifférents. L'intervenant est ici tenté de s'allier aux professionnels et de projeter au dehors ce qui ne fonctionnerait pas. Tous pourris, ces politiciens, le pouvoir au peuple. Ou bien artisan, frappé d'une impuissance radicale, où là, on se sent pour le coup le plus mauvais des intervenants. Plutôt que de lutter contre ce mouvement, il va s'agir alors de révéler son art en proposant de partager cette impuissance. En la reconnaissant, adviennent, me semble-t-il, des limites et des différences au potentiel créatif et porteur de sens. Ou encore, autre mouvement, c'est cet agent destructeur qu'est l'artisan. Plus inavouable et pourtant ô combien important, l'intervenant, animé d'une jouissance aux accents sadiques, qui va orchestrer les complaintes d'une équipe en souffrance et qui en redemanderait à chaque séance de se répandre dans cette instance d'analyse de la pratique qu'elle aura bien fétichisée. Je crois que l'ego de l'intervenant est ici central, puisque du coup il se sent épargné, au-dessus du lot. Il serait celui qui assiste à la désinstitutionnalisation et au démembrement du collectif, jouisseur de cette désubjectivation de soi et de l'autre, qu'il fantasme comme le mettant lui à l'abri. Ce qu'on pourrait traduire par « ne brûlez pas ma voiture, vous dis-je, je ne suis pas de cela ». Je ne m'attacherai aujourd'hui qu'à ces trois mouvements. Ils s'opposent, se complètent, se ressemblent parfois. Leur étymologie est proche ou étrangement familière. Ils sont assez caricaturaux, mais il me fallait bien un titre. Et ils tentent de définir ce fragile équilibre, ce travail de funambule dans l'accompagnement d'équipe dans les établissements médico-sociaux de notre époque. Époque hyper moderne, où je cite Gaès et Gaillard, époque qui se caractérise par l'effondrement des métacadres, par la mise en crise des garants métapsychiques et métasociaux, par l'effacement, voire la disparition de ces grands récits qui ont longtemps servi aux groupes sociaux à s'unifier dans la différence, à prendre place dans une continuité générationnelle et à arrimer leur narcissisme au lien d'altérité, autrement dit, à faire pièce à leur désir d'être tout. J'en reviens à mon CESAD, si j'ose dire, pour illustrer cet effondrement. Comme je le disais, ce service fait partie d'une association dont les directives, on l'a dit, n'en finissent plus d'objectiver le travail et de transformer l'accompagnement vers une lucrative plateforme d'orientation diagnostique. L'usager, réduit à son symptôme et codifié, bénéficiera du coup d'un expert en rééducation ou en remédiation dont les techniques seront recommandées et dont les résultats seront testables, chiffrables, évaluables et sans aucun doute contrôlables. Alors, faut-il donc être contre cette évolution ? Se battre contre ce changement, je pense que nous sommes sans aucun doute nombreux dans cette salle à le penser et à mener cette bataille. Mais peut-être que dans cet espace d'analyse de la pratique, la forme de résistance dont parlait Thierry est une forme peut-être un peu différente que ce qui peut se faire ailleurs. Parce que ce qui est le plus frappant dans le travail avec ces équipes, c'est de constater que malgré tout, le travail se fait, s'opère. Les enfants du CESAD continuent d'être accompagnés, continuent d'être pensés, continuent d'être rêvés. Certes, dans moins en moins d'espaces collectifs, mais quand même, les professionnels inventent ou essayent d'inventer, d'innover, de créer des lieux de pensée et de s'autoriser à conflictualiser. Moi, je les crois, je ne sais pas pour leur passer la brosse à ruine, je les crois artisans à cet endroit, c'est-à-dire au sens littéral, originel, celui qui met son art au service d'autrui. Alors, si l'analyse de la pratique est un des lieux privilégiés pour ce travail réflexif d'artisan ou d'artiste, intéressant de se rappeler que les termes étaient synonymes jusqu'à la fin du XVIIe siècle. S'il est un espace singulier, à part, je crois qu'il échappe effectivement pas non plus à ses réels enjeux sociaux et politiques. Là où tout invite à ne plus penser, à seulement agir, il me semble que la lutte que mène l'intervenant s'articule autour du nécessaire maintien de penser sa pratique et de la penser adossée à une groupalité de manière synchronique et diachronique. Alors, si je m'appuie sur le travail dans CESAD, alors c'est un jeune travail, ça fait moins d'un an, donc on en est encore à s'apprivoiser. Mais déjà, il me semble que ça donne à penser. C'est-à-dire que les prises en charge, elles sont présentées par les professionnels comme inscrites dans une co-référence psychologique et éducative. Un super binôme, du coup, luxueux, mais qui, dans la réalité, ne se rencontre pas ou peu. Et même, tiens donc, l'analyse de la pratique est différenciée pour les éducateurs et pour les psychologues. Alors, je vous le disais, c'est un travail qui vient de démarrer. Et nous en sommes à peine à faire émerger les raisons ou le sens de cette absence de collaboration, de confrontation, que la direction générale annonce les grands changements à venir. Juste avant une séance, les professionnels sont sommés d'être présents 30 minutes. 30 minutes avant, à titre informatif, 30 minutes avant le début de la séance d'analyse de la pratique. A priori, c'est peut-être la première fois que le directeur général vient dans les locaux. Il explique que tout va changer, tout va être en dispositif. Et ça commence par le débarquement de la directrice adjointe. Cadre de proximité, comme on dit, qui, pour le coup, je trouvais qu'elle semblait se positionner face à son équipe, soutenir un vrai cadre d'accompagnement, y compris dans les limites de l'accompagnement. Ce qu'on m'en dit, c'est que l'émotion est vive. Il y a même quelques regards embués, vous imaginez. Ce à quoi le DG répond « Allons, ce n'est que du travail ». Évidemment, ce temps d'information déborde, et l'intervenant que je suis, ponctuel je crois, attend dehors. La directrice adjointe vient m'ouvrir, un peu affolée, me signifie et m'explique le retard, les raisons du retard, tout en retournant à la réunion. Elle anticipe l'analyse de la pratique, elle me dit « bon courage ». Un quart d'heure plus tard à peu près, les éducateurs arrivent. Ils sont en colère, évidemment, tristes, stupéfaits. Plus que le départ de leur directrice, c'est aussi une impossibilité de se représenter leur futur travail qui les rend perplexes. Dans leur désarroi, ils ont même la place pour être désolés pour moi, pour l'attente. Et disent aussi comment ce débordement est une attaque de l'analyse de la pratique. Quand ils ont précisé dans la réunion informative que cette réunion prenait le temps sur une autre instance, il leur a été répondu « Ah, vous avez analysé la pratique après ?» Bah, c'est bien, vous aurez des choses à dire. Alors, je crois que je n'ai pas le temps de développer plus ici les différents mouvements, mais vous voyez bien comme ça serait tentant de s'offusquer. J'ai volontairement repris certains propos des professionnels comme pour partager avec vous ce temps de confusion. L'intervenant est dépositaire d'une vie institutionnelle troublée, troublante et violente. Comment allons-nous travailler, du coup ? Alors, pour être honnête, tout d'abord, tout déborde et je suis traversé de multiples sentiments contradictoires. Je suis perplexe, je suis vexé aussi, je suis insécurisé, j'ai presque des vécus, des personnalisations. Alors j'hystériserais bien les choses en criant au scandale, en annulant la séance parce que les conditions ne sont pas réunies et que le travail ne peut se faire. trop insupportable. Alors, partisan de la grève générale et illimitée. Puis c'est un autre mouvement qui m'anime, celui de la tentation de l'alliance. Laisser parler, laisser se plaindre, ne pas tenir le cadre du travail. La séance ne serait alors plus qu'une zone dépôt de la maltraitance éprouvée, des professionnels en résonance avec la mienne. Le verre est dans le fruit, ou l'artisan du coup. Il ne serait plus nécessaire de penser, et en laissant la séance s'effondrer, il me semble qu'elle mettrait en scène une mise à mal rétorsive, validant de facto la vacuité de l'analyse de la pratique. Mais je crois que c'est finalement la honte qui a pu s'élaborer, le sentiment de n'être personne, de ne servir à rien, qui a pu se dire et qui a autorisé le déploiement d'autres scènes, autrement plus fécondes. La séance a eu lieu, un bricolage artisanal dans une zone de turbulence peut-être, mais n'est-ce pas une grande partie du travail ? L'idée évidemment n'est pas d'exclure ces injonctions institutionnelles, mais de les accueillir, de composer avec et de continuer d'œuvrer, de penser, et surtout de ne pas tous en penser la même chose. J'ai alors la prétention de faire mon travail, qui est celui d'interroger le leur, de les amener à s'interroger sur le métier d'éducateur, son articulation avec les autres corps de métier. Collectivement, se met en mot du débat, de la discorde, sur le rôle et le cadre d'un éducateur. Ses missions et les associations entraîneront le groupe vers une limite des interventions des uns et des autres, vécues assez sereinement et de manière assez libératrice. Est-ce qu'il me reste un peu de temps ?
J'ai hoché la tête, pardon.
Oui, vous avez plus de micro, on a tout piqué.
Je gère tout. Il reste 5 minutes.
D'accord, bon, super. En supportant ces turbulences, les mouvements évoqués vont pouvoir groupalement se scénariser. Une éducatrice va déployer une prise en charge dont les enjeux sont en miroir, me semble-t-il, avec le contexte institutionnel. C'est une situation qui lui tient à cœur, dit-elle, d'une jeune fille de 12 ans, que j'appellerai Eva, qui est d'origine roumaine. On apprend qu'elle va partir au pays cet été. Et elle ne veut pas y aller. L'été dernier, sa sœur un petit peu plus âgée y est allée, s'est mariée et n'est pas revenue. Pour l'éducatrice, les parents d'Eva sont aimants, certes, mais absents, très absents. Notamment, ils n'investissent pas la scolarité. Au contraire, elle, l'éducatrice, elle peut dire qu'elle se sent trop investie. Elle est tellement gentille, cette petite Eva. Et son avenir fait peur, ça fait fantasmer le pire. L'année dernière, c'est déjà l'éducatrice qui a bataillé dur, qui a tout fait pour inscrire cette petite à l'école, et éviter du coup qu'elle ne vienne pas. Cette année, si l'éducatrice ne fait pas ce travail, Eva va-t-elle revenir en France ? Elle est tellement gentille, Eva, et pourtant patatras, quand l'enseignant spécialisé, qui la voit 2 heures par semaine, tourne le dos à un moment donné, Eva lui vole son portefeuille. Aïe. L'éducatrice qui n'est pas loin récupère Eva, tente de comprendre. La petite est effondrée, l'éducatrice aussi, elle décide de la ramener. Et la petite lui explique qu'il ne faut rien dire à sa maman, sinon elle va prendre des coups de fouet. Pourquoi elle a volé ? Parce que son frère la raquette. Donc si elle ne lui ramène pas l'argent, c'est coup de ceinture. Là va pouvoir peut-être, me semble-t-il, se conflictualiser quelque chose, se dire quelque chose. C'est-à-dire que l'éducatrice, en appui sur le groupe, va pouvoir, un peu facile, mais penser au lieu de compenser. Au lieu de passer sous silence. Elle va pouvoir alors parler de son propre sentiment de honte, son propre sentiment de trahison, de complicité. Je ne développe pas plus, mais du coup, il peut s'évoquer dans le groupe des éléments de violence, des éléments de différence culturelle, des éléments autour de la question de la place de la femme, des places de la femme. Plein de choses se parlent et plein de choses se disent différemment. Tout le monde n'est pas d'accord. Il me semble qu'en appui sur le groupe, l'éducatrice peut reconnaître là ses propres limites. Et par là même rencontrer Eva, pour de vrai si j'ose dire, d'humain à humain dans une rencontre intersubjective, avec toute l'humanité que nous portons tous. Ce n'est que du travail, pour reprendre cette expression. Est-ce à dire donc qu'il serait facile à supporter ? On entend ici que le professionnel est désigné coupable de ressentir. Pourtant, dans ce changement institutionnel à venir, la direction propose l'idée de remplacer l'analyse de la pratique par des séances d'ostéopathie. Il y a de quoi en avoir plein le dos, en effet. Et ce n'est que du travail, à mon avis c'est bien tout au contraire le travail de la culture, ça travaille ici et ailleurs, qui ouvre à la parole groupale, qui permet de sortir de cette réification avec cette équipe. Je m'aperçois que je ne me suis pas renseigné, mais je suppose qu'en Roumanie aussi, comme ailleurs, il y a un savoir-faire, une tradition culinaire, une production artisanale, et qu'il doit sûrement y avoir un truc qui ressemble au fromage aux artisans. Je vous remercie.